qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Sur pas blanc, quand je l'ai rejoint, quand marchant joint sur son nuage, intermittent, existant à son image. Oh bien heureux du ventre creux du kidordine, fier que mon parfum ressemble enfin à celui de James Dean. Je me rappelle la dernière pelle que m'a roulé le fossoyeur, le vendévoyeur venu saluer. Pauvre rideau, triste plateau, trois planches de chêne, sans fil d'attente devant ma tente, oxygène. Quand les corbeaux ont trouvé beau et les verbeaux, quand mon trépas ne trouva pas aucun pont, pour faire un vœu, le temps de venir voir la mer, à l'heure où sonnent des téléphones imaginaires. Je me souviens avoir en vain prêté d'ordure, le vent qui frôle est un peu trop à sépulture. Ce vent doux qui m'avait ravi l'envie de dire suffisamment qu'on va s'évanouir comme on respire. Quand je fus nombule, un seul scrupule, avoir peut-être choisi l'enfer sans avoir fermé la fenêtre. C'était l'espoir d'entendre et voir.
est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens, pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 19 février 2024. Du monde merveilleux du travail, qu'est-ce que bien travailler ? Il faut déjà avoir du travail et pas n'importe lequel, du travail salarié. Quant à celui qui nous embauche et sur quelle base cognitive repose son appréciation de nos qualités professionnelles ? Qui apprécie ou juge nos méthodes de travail et les résultats de notre production ? Alors que nous travaillons, pour qui travaillons-t-on ? Et avec qui ou quoi ? Travaillons-nous bien ou mal ? Mais selon qui ? Et pourquoi devrait-on bien travailler puisque rien ne nous appartient, ni la façon de travailler, ni le bénéfice de notre effort, fut-il collectif ? Donc ce soir, échange libre et retour d'expérience de nos années de syndicalisme dans un monde du travail en perpétuelle mutation où la mécanisation, l'évolution technologique et les logiciels imposent leurs règles et leur rythme.
Ma philosophie de la vie, je l'ai apprise aux prises uniques. Il faut faire la queue, acheter le plus qu'on peut sans se faire doubler par les vieux. Je crée mes envies, mes avis, mes amours propres au monoprix. Je profite des promos, j'achète que des lots sans me faire bousculer par les gros. C'est un univers merveilleux, plein de belles images en couleur. Y'a tout ce que j'aime, y'a tout ce que je veux. Des pâtes, des couches, des clous, du beurre. C'est comme le pays des jouets, des enfants du conte Pinocchio. Cette caissière est pas mal roulée, ce rayon regorge de vélos.
J'ai vendu mon âme en promo. Le spam c'est la bible en quatre mots. Souris, bonjour, au revoir, merci. Je cède ma vie à moitié prix pendant que je fais glisser les slips. Sous les bips, je rêve à mon clip. À l'apogée de ma carrière, j'oublierai l'enfer de Leclerc.
Mes histoires d'amour courent toujours autour des couloirs du carrefour. Je suis les gonzesses, je tripe sur leurs fesses sans jamais passer à la caisse.
Mon option au bac, c'est l'arnaque du Vigil Black de chez Attac. Je shoote la vodka, des scuds du coca, mes casse-croll face aux caméras.
Oh là la folie des vendeurs, ça tombe mal, je suis de mauvaise humeur. Faut pas qu'il m'agresse, pas qu'il me cause. S'il y en a un qui me touche, l'explose. Tani, t'éloigne pas du caddie. Pourquoi j'ai amené le gosse? Longtemps que je suis pas venu un samedi. Ce jour-là, d'habitude, je bosse.
Je fais le bonheur de mes supérieurs. Je suis le meilleur des acteurs. Pour que le beau frac, je fais des miracles. J'adapte à chaque fois mon spectacle.
Pour les mamans,
je suis sensible.
Pour l'exigeant, je suis crédible.
Pour mieux vous servir, je m'exerce à sourire comme Julien Le Perse.
Mes informations font légion pour toutes les questions du champion. Je crée des slogans qui laissent les parents impuissants face à leurs enfants.
Je fais la police au service des bénéfices de Leaderprice. Je traque les anoraks, je fouille dans les sacs. Et quand je craque, je fous des paires de claques.
la montagne de bonbons. J'ai l'air minuscule, je me sens con. J'aurai jamais assez de mains pour retenir ce con gamin. Dani, repose-moi cette voiture. Tu sais que j'aime pas quand tu demandes. J'ai déjà dit oui pour les chaussures. J'ai déjà dit non pour les trois bandes.
Je dépense donc, je suis heureux. Si loin des soucis quotidiens. Des paquets cadeaux plein les yeux. Le rêve importé de ma main. Lorsque j'entends toute la misère dont on me parle dans la télé, je viens faire mon plein de super sous les tubes du supermarché.
Ma notion du temps, je la prends en poireautant devant chez Auchan. Je vends l'itinérant d'un air suppliant sans me faire chou ravi mon client.
Notre ultime sursaut sera beau sous les panneaux du casino. Nous irons sans retard au ciel par milliards pour nous réincarner en code-barre.
C'était les Vriggles, The Vriggles. J'arrive pas trop à bien le dire celui-là, je le tiens pas
les
bien.
Les Vriggles.
Les Vriggles.
Un groupe français.
Avec Ma philosophie dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Et ben voilà. Et ben c'était pour introduire. Vous avez compris, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour d'abord. Donc on va faire une émission aujourd'hui avec Eric. Il était prévu qu'on fasse une émission avec Jean-Michel Rodrigo sur la troisième partie de Villa El Salvador. L'aspect plutôt politique hein, de la ville autogérée. Et ben ça sera remis à dans minimum un mois, puisque pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu être là ce soir, mais on reparlera de lui parce que après-demain, enfin mercredi, il va faire il y aura une projection et un débat suivra cette projection avec le réalisateur donc à la librairie Publico. On en reparlera dans les annonces en fin d'émission. Donc cette émission va traiter du travail, du bien travail, du bien travailler. Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on travaille mal? Alors qu'est-ce que c'est que de bien travailler? On va essayer d'apporter des réponses. Alors ça a été une émission qui a été faite un petit peu à la va-vite, hein, parce qu'on a su très récemment que Jean-Michel ne pouvait pas venir. Donc, peut-être qu'on fera une autre émission un jour un peu plus fouillée, parce qu'il y a quand même matière à dire là-dessus.
On avait évoqué ce sujet lors de la dernière émission, très brièvement.
Oui.
Parce que finalement, ça fait un peu partie de tous les sujets. Bien travailler, quoi qu'est-ce. Alors, ça peut être un concept. On va partir du concept. Moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai un peu potassé la chose, comme toi d'ailleurs, il y a un concept du bien travailler aujourd'hui qui est un petit peu bien travailler avec un trait d'union. Donc, c'est un mot en lui-même. Comme le bien-être, le savoir-être,
le bien-vivre.
Donc c'est le bien-travailler. Le bien-travailler, alors c'est une définition qui serait un environnement de travail qui conjugue performance de l'entreprise, donc fait du patron, et épanouissement des salariés. Donc, nous, quoi. Ça, c'est la, on va dire que c'est la base. Alors ça procède de la nouvelle... J'allais dire, les Vriggles, on parlait de la philosophie, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. Mais là, on est dans la philosophie je ne sais pas si c'est du post-libéralisme ou je ne sais quoi, mais ça entre dans le RSE, dans le cadre du RSE. L'espèce de... comme une moralité sociale qui viendrait associer pour le mieux-être des salariés le fait aussi d'être productif et d'être performant. Parce que ça intéresse directement le patron. Bien-être moins, mais si ça peut lui rapporter du pognon, davantage. Certains sondages de 2018, mais aussi 2021 également, donnaient... 12 points, entre 10 et 12 points d'amélioration de la productivité du salarié moyen lorsqu'il était mieux traité ou dans un environnement plus favorable, à savoir des outils ergonomiques, des outils respectueux de ses caractéristiques physiologiques, je pense à la lumière, je pense à la hauteur des plans de travail, etc. Voilà, donc c'est une peut-être une nouveauté, une nouvelle façon de se faire exploiter. Voyons.
Alors, déjà, est-ce que... Alors, eh bien, il est bien évident que le confort dans le travail, ça va améliorer la productivité. Hein, plus le salarié est satisfait, mieux va travailler. C'est pour ça aussi qu'on met en place des CSE qui distribuent des bons de fin d'année ou pour des CSE qui auront un gros budget et d'avoir même pouvoir investir dans des chalets, je sais pas, des petits pavillons au bord de mer pour que les salariés puissent passer des vacances tranquilles à moindre frais. Donc effectivement, il y a, dans les entreprises importantes, l'employeur a intérêt de faire bénéficier d'avoir des avantages sociaux. Voilà, on va appeler ça comme ça. Maintenant, est-ce que tout ce confort que tu nous décris, que tu nous présentes, est-ce qu'il est vraiment appliqué dans les entreprises? Est-ce que ce ne sont pas juste des recommandations qui feraient que effectivement, si c'était bien fait, on pourrait être plus productif? Et c'est parce que cette description d'éléments qui donnent du confort aux salariés, ça a un coût. Ça a un coût aussi. Hein, faut investir. Alors, du coup, investissement, plus de participation. Ah, du coup, le salarié, il est mécontent. Alors, comment on arrive, comment un employeur, un patron arrive à jongler avec tout ça, contenter ses salariés par un confort de travail et une satisfaction salariale?
Il opère une sélection.
Et voilà.
D'abord, il va contenter ses cadres dirigeants, puis ses cadres un petit peu rouages, hein, qui transmettent les mots d'ordre, les consignes, qui organisent le travail.
Il faut redescendre les informations pour organiser le travail.
Hein. Et ça s'arrête là, très souvent.
Oui.
Parce que c'est suffisant pour la productivité, en tout cas pour le confort. Pour la productivité, peut-être pas directement, mais pour le confort de ceux dont il a décidé qu'ils avaient un petit peu de pouvoir délégué dans l'entreprise et qui sont en capacité de faire pression sur la masse des salariés pour maintenir une productivité optimisée. Donc en fait, le confort ne concerne, pour l'avoir vécu encore maintenant, pour le vivre, non, le confort, c'est pas pour tout le monde. Je pense notamment à Martine, qu'on a là, qui doit nous écouter, et qui pourrait corroborer là, en ce moment une situation d'inconfort à tout point de vue. Donc non, et ça, tant qu'on n'est pas effectivement dans la sphère des happy few, des quelques-uns qui sont en lien direct avec la direction et ceux qui détiennent le pouvoir ou à qui on a confié le pouvoir, il y a peu de réalité dans ce RSE. Ce sont des mots, des recommandations, alors très souvent c'est vain. Quoi, En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Et ça doit exister. Appelez-nous, chers auditeurs, si vous vivez une situation de rêve en tant que salarié.
Moi, ça reste en confidentialité, mais moi, dans le cadre des formations que j'ai suivies, hein, auprès de la CRAMI sur le CH, bref, les aspects du CHSCT quand il existait encore, enfin, pour les petites boîtes en tout cas, y avait des patrons qui voulaient effectivement apporter de la sécurité, du confort à leurs salariés. Alors, le problème, c'est que les EPI, par exemple, hein, les équipements de protection individuelle qui vont apporter de la sécurité, et des fois, sont pas, ils vont te protéger. Alors, c'était pour de la peinture. Moi, j'ai rencontré le patron, il était venu faire la formation, hein, carrément. C'était de la peinture sur dans un ça devait être un garage, un truc comme ça. Donc une fois qu'ils avaient retapé la tôle, ils ont fait un coup de peinture. Mais pour de la peinture, faut être dans une cabine. Et alors il y avait les personnes, les travailleurs étaient dans la cabine et ils avaient besoin d'un équipement. Sauf que avec cet équipement, travailler toute la journée avec, c'était étouffé quoi. Ils étouffaient donc. Tout le monde, alors c'était pas que dans la cabine, hein, mais tout le monde dans l'atelier ne portait pas ses équipements. Et le patron, effectivement, a cherché des solutions pour pallier justement à ces équipements qui t'empêchent de travailler correctement. Du coup, si t'étouffes dessous, hein, c'est que c'est pas, tu peux pas établir, enfin effectuer un travail correct. Donc pour ça, j'en ai rencontré un. Voilà. Après, il y a un autre exemple qui avait été donné d'un patron qui avait apporté dans son entreprise du confort, c'est-à-dire qu'il y avait des très beaux. C'était pareil, un atelier graisseux. Hein, c'était du. Bon, c'était la confection de sièges pour automobile, hein, toujours, c'est encore un truc dans le genre. Donc, c'est vraiment l'atelier qui est pas propre, c'est pas le laboratoire pharmaceutique ou. Et au fond de l'atelier, il y avait quand même un gros aquarium, comme ça, avec des lumières, des poissons. Le patron tenait vraiment à ce que les salariés aient du confort, qu'ils respectent bien aussi la sécurité. Mais ça, c'est parce que lui-même avait eu un fils qui était artiste, j'ai des sculptures monumentales, et il avait fini par glisser et s'empaler sur sa sculpture. Donc, la mort de son fils l'a fait prendre conscience que les salariés n'étaient pas là pour prendre des risques. Donc il était très à cheval aussi sur la sécurité et le confort de ses salariés. Bon, ça fait deux patrons que j'ai rencontrés. J'ai pas rencontré tous les patrons non plus, hein, mais ça fait pas beaucoup quand même. Et il faut vraiment des circonstances particulières pour qu'on mette en place quelque chose qui va ressembler, oui, à du confort de travail, ou... ouais. Mais bon, c'est...
Prendre soin des salariés,
prendre soin
des salariés, leur confort physique, enfin, leur sécurité physique, leur sécurité mentale aussi, dont acte.
Oui, je crois que c'est dans... Et ça, c'est quand on considère que les salariés sont des personnes. Je crois, j'avais lu dans, il me semble, dans Le Sabotage d'Émile Pouget, où effectivement, il évoquait le fait qu'on considère, les capitalistes considèrent le travailleur comme de la marchandise. Tu vois ? Du coup, un employé doit non pas effectuer ses compétences, mais doit être entièrement dévoué à son patron, à son travail, sans considération de ses compétences. Quand on considère quoi une marchandise comme du blé ou comme du... Bon, il n'existe pas, en fait. Enfin, il existe, mais il a une valeur. On lui donne une valeur, et contrairement au blé qui lui a toujours la même valeur, enfin on peut jouer avec, hein, évidemment, mais ce qu'on demande aux salariés, c'est d'aller au-delà de ses compétences, c'est donner le maximum aussi. C'est comme ça qu'on le pressurise, qu'on le... Voilà.
Et d'ailleurs,
on appelle ça la loi de l'offre et de la demande, ouais. Mais voilà, sur des humains.
Et d'ailleurs, on achète notre temps, ce qu'on a de plus précieux finalement, notre temps, c'est du temps. Alors après, on met une valeur, une variable qui est le salaire par rapport au temps, c'est-à-dire un taux horaire, mais c'est le temps qu'on achète, ton temps libre en fait, que tu cèdes pour produire un service, un objet.
Alors justement, comment les salariés considèrent-ils le travail ? Justement, tu nous parles de contrat de travail, donc c'est-à-dire qu'on a un contrat qui nous dit, vous commencez à telle heure, et vous finissez à telle heure. Et pendant ce laps de temps, alors moi j'ai parlé du commerce, hein, c'est ce que je connais le mieux. Après j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Ça fonctionne pas comme dans le commerce, l'audiovisuel ou des trucs. Mais bon, bref, t'as autre chose. Alors, le fait d'avoir fait, en fait, moi, d'avoir effectué plusieurs boulots, je me suis rendu compte que y a des secteurs qui sont très durs, très difficiles. Le commerce. la restauration. J'ai travaillé aussi un petit peu, bon, pas en tant que cuistot ou tout ça, mais j'étais assez lié à ça. Il y a des boulots difficiles, hein, comme le bâtiment et le nettoyage. Ça, c'est vraiment des... Bon, je parle pas des égoutiers, des métiers spécifiques ou cela, voilà, c'est... mais ça existe aussi. Mais dans ces secteurs-là, effectivement, alors, comment on est... Alors, on a un contrat de travail, mais comment on évalue le travail qu'on a à faire. Voilà. Parce que pour moi, ça s'associe davantage, dans le commerce, à du travail à la tâche, en fait. Mmh. Il y a une somme de... Alors, ne serait-ce que remplir les rayons, hein. Je ne parle pas pour les hôtesses de caisse, mais quoique... Bah, mais pour remplir les rayons...
Passage client, nombre de passages clients.
Ouais.
Ça, ça a longtemps été un critère. Voilà. Hein.
Oui, oui. Ça, c'est un peu radouci, là. Mmh.
Que... Il y a moins de clients.
Il y a moins de clients. Mais n'empêche qu'il faut remplir des rayons, ne serait-ce que ça. Donc, tout arrive sur palette. Il faut... il faut voilà, dépoter sa palette et ranger. Voilà, c'est très, très pragmatique, très prosaïque, hein, ce que je raconte, là. Sauf que l'employeur, lui, bah justement, s'il y a moins de clients, il se dit peut-être qu'un salarié... Donc, il a moins, forcément moins de travail. Et donc, comme il a moins de travail, il peut faire plusieurs rayons. Mmh. Et donc, le salarié, quand on lui assigne effectivement une tâche, tu remplis ton rayon de crèmerie, il va vouloir faire tout son rayon de crémie et avec tout le stock qui arrive. Donc s'il y a 4 palettes, il va faire 4 palettes, mais des fois c'est 12. Et ils vont quand même faire 12 palettes. 12 ou 4, alors qu'en fait, ils sont donc ils vont quand ils évidemment, quand tu as 4 palettes, tu es censé avoir moins de travail que 12. Hein? Et donc en fait, ils sont employés pour 4 palettes. Mais ils vont faire le travail pour 12, donc ils vont tirer. Et là, toutes les règles de sécurité et tu vois, pour les gestes et postures pour porter des cartons, là, ça rentre plus en compte. La sécurité pour monter sur des petits tabourets pour atteindre plus vite le sommet, ou justement pas de tabouret, monter directement sur les meubles pour atteindre les étagères les plus hautes. Donc il n'y a plus de notion de sécurité là, parce que le salarié a lui intégré le fait que en fait, il exécute un travail à la tâche alors qu'il a des horaires. Mmh. Et ça m'a toujours surpris.
Donc, oui, en fait, on touche aussi à la souffrance au travail très rapidement. Quoi.
Oui,
parce que les cadences ne sont pas les mêmes, entre 4 et 12 palettes, comme selon ton exemple. Entre, si c'est de la crèmerie, la charge à porter, parce qu'il y a aussi la charge, défaut de posture, enfin, parce qu'on va aller vite et se débarrasser en quelque sorte de ce qu'on fait. Donc finalement, c'est pas bien travaillé. On peut pas dire que ce soit bien travaillé. On est ailleurs. On est ailleurs.
Ben, sûrement, il y a des définitions hein, qui ont été données aussi bien par Pouget que Pierre Bénard. Hein, je prends la référence au syndicaliste révolutionnaire. Oui, Pierre Bénard est un syndicaliste révolutionnaire. Pour ceux de la CT qui ne connaissent pas encore. Et il y en a. Excusez-moi, je rigole. Les private jokes entre nous. Ouais, alors, tout ça aussi, une question de conscience, en fait. Hein. Alors, la conscience professionnelle, beaucoup plus, tiens, je vais vous lire un petit peu, beaucoup plus développée qu'on ne veut le reconnaître dans le clan patronal, consiste, à mon avis, nous dit Pierre Bénard, à avoir le désir de livrer un travail bien fait, auquel on a donné toute son attention, tout son savoir et peu de son âme. Un bon ouvrier est toujours fier de son œuvre s'il a réussi à la faire parfaite. Alors, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une œuvre parfaite? Est-ce qu'on peut travailler efficacement? Alors qu'effectivement, les employeurs nous imposent des méthodes de travail, avec des nouvelles méthodes de travail, parce que leur management nous impose... leur méthode, avec des outils spécifiques, Tout ça lié à l'automatisation aussi.
Est-ce que Pierre Bénard, dans son œuvre parfaite, ne s'adresse pas, je pense, à non pas au travailleur lambda qui est en... Qui, dans le commerce, ce sont des OS, en quelque sorte, pour faire simple. La plupart des employés qui remplissent les rayons, c'est l'équivalent des OS. Hein. Mmh. Est-ce qu'il ne s'adresse pas plutôt à l'ouvrier artisan, est-ce qu'il n'a pas en tête le fait de réaliser, de se réaliser dans son œuvre ? Il y a ça aussi. Tu ne te réalises pas dans ton œuvre quand
moi,
tu bosses.
Peut-être que je l'ai lu. Non, c'est l'ouvrier conscient. Mmh. Conscient. Il y a une conscience. Il n'est pas là juste pour ramasser de l'argent, pour faire vivre sa famille. C'est effectivement, il participe à quelque chose. Et quand on lui donne un travail, ben, il veut le faire correctement. Donc ne pas le bâcler. Même si c'est un travail de remplissage des rayons. Hein. Quand vous voyez je dis pas qu'aux États-Unis ils font un bon travail, qu'ils ont des bonnes conditions de travail, mais en tout cas dans les films ou même dans les documentaires, vous voyez en général les rayons, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des caméras qui se présentent, mais d'une manière générale si quand même, parce que j'ai travaillé avec des patrons qui ont aussi travaillé aux États-Unis, effectivement tu as toutes les marques qui sont bien visibles, toutes les boîtes sont bien alignées. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, je peux vous le dire. et c'est même pas du tout le cas en France. Personne n'a rien à foutre qu'on puisse bien lire Coca-Cola sur une canette de soda. Mais un salarié pourra avoir envie d'avoir un rayon qui soit beau esthétiquement, qui soit agréable, mais il n'en a pas toujours les moyens. Parce qu'il y a la contrainte de temps. Parce qu'on lui demande de faire deux tâches presque successivement. Mmh. Donc, tu ne peux pas être satisfait. Et d'ailleurs, y a beaucoup, ça rentre beaucoup dans la reconnaissance. Moi, il y a quelques salariés qui ont toujours besoin, qui sont toujours très énervés. On en revient dans la souffrance là, que tu évoquais et qu'on évoquera peut-être encore après. Mais qui ont besoin, effectivement, d'aller voir les cadres, de leur dire « Regardez, j'ai bien rempli, j'ai bien fait ça, c'est beau. » Et j'ai même vu des salariés qui se font prendre en photo dans par le cadre devant leur rayon. Le rayon n'est pas spécialement beau. Et le salarié non plus, hein, je peux vous le dire. Que...
Mais, on va couper au montage.
Mais voilà, mais il y a quand même, au fond du salarié, l'envie, le besoin de faire un travail correct. Et on ne lui laisse pas forcément. Et surtout, on ne va pas lui dire qu'il le fait correctement.
Il est trop connu.
Parce que sinon, parce que plus moins on lui dit, plus il va vouloir en faire. Donc...
C'est un problème de reconnaissance.
Ouais, mais le management, je crois qu'il ne va pas être reconnaissant. Il se tire une balle dans le pied. Il dit, attends, maintenant tu fais du bon travail. L'autre dit, oh, bah stop, j'en fais pas plus. Non ? C'est une supposition.
Oui, ça, on reste sur une supposition. Mais c'est vrai que le fait d'être reconnu pour la qualité du travail, parce que bien travailler, c'est... Il y a la performance, hein, c'est-à-dire, tes 12 palettes, c'est de la performance. Mmh.
Bon, ils font ça à 3-4.
Ah bon, peu importe qu'ils soient 3 ou 4.
C'est chacun.
Oui, mais c'est. Voilà, on est dans la performance. Pour être 12, 14, voilà. C'est aller plus loin dans la production de la performance. Mais c'est pas pour autant que c'est bien travaillé. C'est-à-dire que ça, c'est une partie du travail. En fait, c'est bien travailler pour qui ? Bien travailler peut-être pour le patron, ou pour le chef de rayon, ou pour le responsable de l'environnement, je sais pas moi, fruits et légumes ou viande ou voilà, mais c'est pas bien travaillé dans son ensemble parce que la part du salarié dans cette action, elle est évacuée.
Alors, effectivement, si tu veux dire qu'effectivement bien travailler, ça, savoir respecter les règles de sécurité, respecter ses collègues. Respecter donc son travail en propre et effectuer un travail correct avec toutes ces belles boîtes de conserve bien alignées, bien visibles, très esthétiques. Oui, on va pas avoir tout ça réuni. D'abord parce qu'il n'y a pas le temps. C'est peut-être pas notre culture non plus. Et tout le monde, là, ça, c'est, ce serait avoir une conscience, justement. Avoir conscience de son environnement, conscience de ses collègues. On n'est pas tout seul dans l'entreprise. Mmh. On est une force collective. Et puis, on essaie d'effectuer une tâche convenablement, mais esthétiquement aussi. Et ça, tout le monde n'a pas... on va avoir l'un ou l'autre, mais pas...
C'est pour ça que j'en reviens à cette question, que c'est peut-être important de comprendre pour le salarié à quoi son travail sert dans un objectif collectif, et avec une approche, on en a déjà parlé à l'antenne, puis en dehors, une approche plus large, c'est-à-dire... d'où viennent mes produits, vers qui ils vont, dans quelles conditions ça s'opère et à quel moment je m'inscris d'activité qui me dépasse finalement, mais pas tant que ça, parce qu'à partir du moment où tu en prends conscience, elle te dépasse moins. Mais tu t'inscris dans, donc elle t'appartient un petit peu à un moment donné. Et donc le faire bien, c'est bien travailler à condition de comprendre ce que tu fais et de comprendre avec qui tu travailles et pourquoi.
La question du sens, sens au travail, non, c'est ça ? Donner du sens à son travail, non ? Pourquoi je fais ça ? Dans quel but ? Et à qui ? À quoi ça sert ? Non ?
Ben, je te répondrais que je pourrais donner du sens à mon travail en disant ce que je veux, c'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent et être... Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des salariés dans le commerce veulent, puisqu'on a déjà aussi évoqué cette question. Le commerce, c'est faire de l'argent. Donc,
faire de l'argent.
On n'est pas dans l'éthique du travail. Moyen, quoi, en tout cas. Donc, je pourrais te rétorquer, ben non, mon objectif, c'est le rayon, je vais le faire, comme on me l'a dit, et ma satisfaction, donc ma performance, c'est d'avoir une prime, c'est d'être... bien considéré, même si c'est purement de façade, hein, bien considéré par ma hiérarchie. Enfin, du coup, en tout cas, tant que je travaille aussi vite, aussi longtemps, aussi fort, aussi de manière aussi intense, parce que je suis utile. Donc moi, mon but, c'est de gagner du pognon. Le sens du travail, c'est aussi à géométrie. Moi, je pense, en tout cas, c'est à géométrie variable.
Ben oui, on va lancer une musique. Tiens, je vais l'annoncer avant, pour une fois.
Ben, bien sûr.
Allez, il n'y a pas de raison. San Severino, les ouvriers, dans le monde merveilleux du travail, sur Radio Libertaire 89.4.
Mécanicien, tourneur de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crise économique en restructuration, de fermeture d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de chez Renault, chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, ben aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers. Le front pop de 36, c'était il y a bien longtemps. 40 heures à la semaine, de l'espoir pour 20 ans. Les congés sont payés, on n'osait même plus en rêver. Ça durera pas longtemps, le chômage viendra tout doucement. On va morfler, c'est nous les ouvriers. Tabasser les canuts, 1881, 1848, les ouvriers parisiens. Le train est à la chaîne, des OS de chez Citroën. Métro, des primes, dodo, des licenciés de chez Renault. C'est notre histoire à nous les ouvriers. Prolétaire, patron milliardaire, sont faits pour se plaire. Aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisé. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. peu moins en moins payés, nous sommes les ouvriers. Et le pouvoir vacille. Sacrifier son salaire n'est pas aussi facile. Pour le pouvoir d'achat, y'a que le combat collectif. L'augmentation du niveau de vie sera notre objectif. Tout va changer, c'est nous les ouvriers. Rentrée de manif, les deux arcades ouvertes. Retour au quotidien, omelette et salade verte. Avoir quelques copains, discuter politique. Le partage du temps de travail, ce n'est pas utopique. C'est nos idées à nous les ouvriers. Prolétaires, patrons milliardaires, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins nombreux, nous sommes les ouvriers. Le prolo qui va au charbon a toujours raison. L'ouvrier parisien est teigneux comme un chien. Dans la sidérurgie, on passera par notre vie.
Voilà, San Severino, sur les ondes de Radio Libertaire, 89.4 MHz. Donc, nous en étions à bien travailler. Et
je voulais ajouter à ce que je disais
précédemment.
Ce choix de participer, ce choix conscient de participer au fait de bien travailler avec des critères, est-ce que ça me convient aussi? Est-ce que ça me convient? Et est-ce que je participe à l'élaboration? Alors, on est plus dans la verticalité hiérarchique de l'entreprise, où le responsable va donner une consigne, un ordre, et puis les autres obéissent. Mais est-ce que à un moment donné, on me fait participer, ou je participe à l'élaboration intelligente du travail, donc qui peut-être, avec l'échange qu'on peut avoir dans un service, dans une usine, dans un atelier, ça permet à un ensemble, donc au collectif dont on parlait tout à l'heure, de bien travailler, c'est-à-dire de se sentir investi d'un pouvoir, même partiel, de participation à la productivité.
Alors, est-ce que ça s'accompagne pas effectivement d'un emploi stable et qui s'inscrit dans la durée? S'il y a du turnover et qu'on sait qu'il y a du turnover, on sait qu'on va peut-être pas rester ou on n'a pas envie de rester parce que c'est pas satisfaisant. Est-ce qu'on va appliquer un certain nombre de règles, de consignes sur la sécurité, sur le bien-être? Est-ce qu'on va respecter le bien-être des autres? Après, le problème, c'est que dans les entreprises, effectivement, il y a des fois, il y a pas du matériel pour tout le monde. Il faut se le partager. L'employeur, il va pas investir. Je parlais de tabouret tout à l'heure. Ça paraît anodin, mais pour effectivement atteindre les hauts des rayonnages, il faut puis des salariés qui sont grands, petits, beaucoup de petits quand même, ou de petites, et des fois il faut monter sur des pieds d'éléphant, qui sont interdits d'ailleurs dans les entreprises normalement, mais nous on a quand même pas mal de pieds d'éléphant, pour pouvoir monter, pour s'élever et remplir les rayons. Mais sauf qu'il n'y en a pas pour chaque salarié, donc il faut se les partager. Donc un des grands problèmes dans l'entreprise, c'est de pouvoir se piquer son pied d'éléphant, quitte à être assis dessus quand tu remplis le bas, pour être sûr que personne te le pique. C'est des trucs de dingue, hein. Et les gens s'engueulent pour ça. Donc, des choses que l'employeur devrait mettre en place, tout le confort et tout le matériel propre à un bon travail, il ne le fait pas, parce que ça lui coûte de l'argent. Il estime que les salariés doivent te partager. Et du coup, il y a de la satisfaction. Je pense qu'il y a rarement de satisfaction dans le travail. Il y en a peut-être qui disent qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont un bon salaire, mais dans le fond, non. On les voit bien, ils grossissent, ils sont vieillissent, ils sont aigris,
il y a des signes.
Hargneux.
Ah, il y a des signes, oui, qui montrent qu'il y a, un mal-être, du coup, un mal-être, et qui a les conséquences d'un de mauvaises conditions, et donc pas, on n'est pas sur le bien travaillé, mais sur autre chose. Sur un peu d'empirisme, parce que c'est un peu... Là, c'est ça, mais c'est intéressant, parce que ça permet de voir, en tout cas dans le commerce, qu'il y a quand même, même si c'est parfois... le discours est très organisé, très, très se veut rationnel, en fait, on est dans l'empirisme. De manière pratique, hein, sur le terrain, on est dans l'empirisme. Derrière les discours, moi je le connais actuellement, dans l'entreprise, on fait des discours, des séminaires régulièrement, ça parle, ça... C'est bien fait, c'est bien fait, c'est censé être impressionnant, alors j'y vais plus, mais c'est censé être impressionnant, et en fait, dans la réalité, enfin en tout cas ma réalité, c'est de l'empirisme. C'est-à-dire que, pour faire simple, c'est débrouille-toi, avec pas grand-chose, et puis... on est loin du discours.
Oui, ça m'a évoqué aussi quelque chose, c'est que d'abord je pense les syndicats ont quand même assez peu de prise sur les employés pour leur faire prendre conscience de tout ça. Alors est-ce qu'il y a une volonté, j'en suis pas sûr. Mais déjà sur les militants, enfin les militants, ceux qui ont des cartes, qui sont au CSE, mais bah moi, dans mon secteur, le commerce, il y a très peu de communication des syndicats sur le confort de travail. Et puis ceux qui vont faire des affichages, souvent, c'est vraiment parce qu'ils ont un affichage général, c'est un tract général, et puis de l'affiche, pour dire qu'il y a quelque chose dans le panneau, mais c'est pas suivi des faits. Donc il y a peu de prise des syndicats sur les salariés ou les représentants du personnel font pas leur boulot non plus, ils en ont rien à foutre, hein, c'est chacun un peu pour sa gueule, faut quand même. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup de réunions inutiles faites par les cadres. Alors des réunions entre cadres pour effectivement s'expliquer, se tenir informé quotidiennement de comment il faut, quels sont les chiffres, quels résultats on veut obtenir et comment on doit l'obtenir. Et puis des réunions du coup, ce qui sont faites auprès des salariés. Alors, c'est vraiment des réunions inutiles. Hein, parce que je crois que d'abord, dans le secteur dans lequel je travaille, la plupart des salariés comprennent très mal le français. Donc, c'est bien de donner des chiffres, mais ou des directives, mais la plupart des gens ne comprennent pas. C'est pas du... je ne suis pas, comment dire... je ne suis pas à vouloir faire de la discrimination, hein, ou de...
Mais c'est une
réalité. Oui. Quand il suffit qu'on parle avec des salariés, moi je n'y comprends pas des fois. Hein. Mm. C'est 30 ans que je suis dans la boîte, je piche pas un mot. Bref, c'est assez difficile. Mais enfin bref, on fait quand même des réunions, donc du coup tu perds du temps, après il faut que tu rattrapes, mais il y a quand même des choses qui rentrent dans le crâne. C'est vraiment des... Alors ça dépend de qui fait la réunion, mais... c'est une méthode de management aussi de faire rentrer des idées, des prérequis, en fait. Enfin, ou entretenir des prérequis. Tu vois, on est là, on est peut-être un peu une famille. C'est un peu comme si on était une famille. On doit bien travailler, on doit faire en sorte que l'entreprise fasse de l'argent. Toi, tu n'en retires aucun bénéfice. Hein. Toi, l'employé, que tu travailles bien ou mal, en fin de compte, tu auras toujours le même salaire, tu n'en tireras aucun bénéfice.
Alors, justement, je voulais rebondir, parce qu'on a une auditrice qui nous... Je ne vais pas la citer, mais qui nous a appelé, et qui évoquait ce cas, justement, que de toute façon, tu n'avais absolument aucune reconnaissance de la part de ton... Généralement, tu n'avais pas beaucoup de reconnaissance de la part de ton patron, et qui se permettait, souvent, pendant les réunions, de prendre à partie, justement, ou de pointer la faute, de chercher la petite bête devant tes collègues.
Alors, soit on va pointer la faute, effectivement, pour entretenir le malaise, et qui va, en espérant que tu essayes toi-même de te corriger, et puis, tu vois, d'en faire plus pour... espérer attirer l'attention de l'employeur et puis recevoir un jour une reconnaissance, mais ça j'y crois pas. Ou alors, effectivement, l'employeur va être reconnaissant, mais c'est pour mieux montrer aux autres qu'ils ne sont pas aussi performants. Et donc, ça va dépendre effectivement de la conjoncture, peut-être. Mais de toute façon, l'employeur, à mon sens, j'ai jamais entendu un employeur dire tu travailles bien. Bon,
alors ça, c'est ce qu'est un bon sens.
Ça, il y a aussi.
Il n'y a rien de tel pour te démotiver si on ne reconnaît pas ce que tu fais.
Tu sais, il y a des secteurs où tu n'as pas besoin de qualification. Si tu n'es pas bien, que tu démissionnes ou que tu tombes malade, tu seras vite remplacé par quelqu'un qui sera aussi peu qualifié.
Oui, c'est ce dont parlait l'auditrice aussi. Arguments phares, c'est effectivement, de toute façon, tu n'es pas content, tu dégages. Il y en a 50 qui attendent du boulot derrière.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover. Et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant avec ce que nous a pondu le gouvernement avec, avec la modification de, pas pour l'emploi, mais France Travail. On en reparlera peut-être, il y a une petite occasion avant la fin de l'émission. Oui, je suis d'accord avec l'auditrice, oui, effectivement.
Le nouveau STO.
Ouais. Non, mais l'employeur, il n'a pas intérêt à avoir de la reconnaissance pour ses salariés.
C'est une méthode de direction, enfin
management.
Management. J'essaie de trouver un autre mot parce que t'as raison, c'est du management parce qu'en anglais to manage ça veut dire manipuler. Mm-hmm. Donc on est vraiment dans la manipulation. Dans la manipulation. Et il y trouve un bénéfice, c'est d'avoir une emprise. C'est ça qui le pouvoir, c'est l'emprise sur l'autre. Ça c'est terrible. Hein. C'est le plus grand. La plus grande jouissance des patrons, puis bien d'autres encore, c'est d'avoir cette emprise. Donc imagine, bien sûr, que terroriser, c'est ou faire douter. Est-ce que je travaille bien? Quelqu'un qui a un peu de conscience, un salarié qui a un peu de conscience, il va se poser la question, mais est-ce que c'est bien ce que je fais ou... Et comme personne ne va lui répondre, parce qu'à un moment donné aussi, il y a ceux qui ne savent pas, parce qu'on est entouré d'abrutis quand même, ceux qui ne savent pas, et ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font, mais même des cadres, qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, et puis qui, de toute façon, ne disent ceci. C'est-à-dire qu'en fait, ils segmentarisent les activités. Ce que fait l'autre... On s'en tape. Ce que fait l'autre au-dessus, ça ne me regarde pas. Moi, mon travail est bien fait. Ah ouais, mais bon, s'il est bien fait, mais que les conséquences de ce que tu penses être bien, elles ne sont pas bonnes pour celui qui prend la suite de ce que tu as fait, ce n'est pas du bon boulot. Mais ça leur échappe complètement. Oui, t'es dirigé par
ça. C'est des questions de perception et en fonction aussi de ton expérience et de ta conscience, la conscience du travail bien fait ou à bien faire. Alors, je vais quand même, pour ceux qui auraient oublié certains ouvrages, parce que des fois c'est un petit peu vieux, c'est des années 70, c'est le principe de Peter, comment il s'appelle? Lawrence G. Peter, bref. Il a écrit le principe de Peter, et c'est chaque employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Eh ben, on retrouve ça juste, alors moi, je recommande, au livre de poche, ça coûte 6 euros. Ça coûtait 6,50 €.
Oui, c'est une bonne lecture.
C'est vraiment un truc... C'est drôle. Ah, c'est pas un ouvrage sérieux. C'est pas une étude scientifique. Mais on sent que le mec, il a de l'expérience quand même. En tout cas, ça fait rire. Parce que, et surtout, vous allez retrouver dedans... quand vous allez lire ce bouquin, vous allez retrouver votre environnement de travail... des collègues, des supérieurs hiérarchiques, vous-même peut-être.
Ouais.
Moi-même, je
peux.
Et effectivement, comme chaque employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence, je m'en tiens juste au titre, au sous-titre, c'est pareil pour les cadres. Les cadres, surtout dans le commerce, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Mais à l'époque, tu t'élevais comme ça, tu pouvais travailler, commencer après sa carton, tu passais dans les rayons, tu léchais un petit peu le cul à droite à gauche, et puis tu devenais responsable d'un chargé de rayon, puis après chef alimentaire, sous-directeur, directeur. Sauf que, entre celui qui fait la presse à carton et puis qui devient directeur, des fois, il a manqué quelque chose, quoi. Parce que aller chez le tuyau, tirer les pompes, ça ne t'apprend pas grand chose. Alors, du coup, alors, c'est un petit peu hein, ce que. Alors, il ne le dit pas comme ça, hein, Peter. Laurence Peter.
C'est une synthèse, chers auditeurs.
Ah oui, c'est un bon raccourci. Mais, effectivement, on va. Et puis tu commencer à reconnaître que les alors déjà il faut avoir des compétences soi-même hein, pour faut être compétent pour reconnaître que les autres sont compétents, mais leur reconnaître des compétences c'est dire bah moi je ne sers plus à rien. Donc c'est pour ça que hein, j'en reviens et là je m'adresse à l'auditrice. Tu peux dire les prénoms à Bénédicte quand même, donc tu donnes pas le nom de famille, l'adresse, tout ça. Les responsables, les employeurs vont pas forcément reconnaître les compétences, le bon travail des uns et des autres. D'abord parce que eux-mêmes ils savent pas ce que c'est bien travailler. Ils ont leur propre opinion. Et puis de toute façon c'est pas remettre en cause leur boulot, mais c'est une manière de diminuer un petit peu leur position dans l'entreprise.
D'où l'importance d'être d'associer l'ensemble des travailleurs d'une unité de production à la définition. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour une véritable réussite, hein, si on est dans l'idéal, une véritable réussite du bien travaillé, de la compréhension et de l'acceptation du bien travaillé, c'est d'associer tout le monde à la définition de, dans notre unité de production, qu'est-ce que c'est que le bien travaillé. Et là, à un moment donné, on se met tous autour d'une table et on échange pour arriver, en fonction des postes, en fonction des missions, en fonction des relations finalement qu'on peut avoir dans les différents services pour organiser ce qui est le bien travaillé, ce qu'on a décidé collectivement du bien travaillé. Ça veut dire aussi qu'on a une conscience, une éthique du bien travaillé. C'est pas évident.
Alors, il y a un article dans le Code du travail, je ne m'en souviens plus, honnêtement, mais il existe dans le Code du travail un article qui prévoit que les syndicats peuvent réunir les salariés pour évoquer un certain nombre de problèmes, pourquoi pas le bien travaillé. Qu'est-ce que le bien travaillé? Et ça, c'est, j'ai jamais vu saisi par des syndicats. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très facile, hein, parce que je vais reprendre l'exemple du commerce, il y a quand même des amplitudes d'ouverture qui vont de 6h du matin à 22h, voire plus, hein, dans certains secteurs, certaines enseignes. C'est difficile de réunir tout le monde. En plus, on n'est pas en usine, hein, là où on travaille, c'est aussi la surface de travail, c'est aussi la surface de vente. Donc il y a des clients, c'est difficile de pouvoir faire arrêter tout le monde pour pouvoir discuter de quelque chose. Je comprends bien que c'est complexe, hein, mais il y a quand même des dispositions dans le Code du travail et qui, à mon avis, ne sont jamais utilisées. Voilà. Donc à défaut d'accord pour mettre ça en place, parce que l'employeur, on peut saisir l'employeur pour mettre ça en place, hein, mais si l'employeur veut pas, et de toute façon le Code du travail le prévoit.
Oui, j'ai des questions sous-jacentes. C'est est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce qu'on me donne des objectifs réalistes? Est-ce que moi-même je suis en capacité de? Est-ce que j'ai les bons matériaux? Est-ce que je connais les bonnes personnes? Est-ce qu'on m'a donné les bonnes informations pour me permettre de bien travailler? Est-ce que j'ai compris ce qu'était bien travailler? Est-ce qu'on a compris tous ce qu'était le bien travailler? Ça demande une coopération et un échange direct et une véritable préparation du travail, en fait. Une véritable préparation du travail.
Ouais. Et puis alors, on parlait de conscience pour les travailleurs, mais tu as évoqué aussi la souffrance au travail. Alors là, j'enverrai un autre bouquin qui est un peu vieux maintenant, puis il date de 98, le bouquin de Christophe Dejour sur souffrance en France. Mais la souffrance au travail est aussi amenée par les collègues de travail qui ne te facilitent pas le boulot. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure avec des choses anodines comme des pieds d'éléphant qu'on chipe et puis qu'on ne se rend plus. Tout ça participe. Donc, il y a un moment, t'es pas bien. dans ton boulot. Donc, ça, oui, ça crée de la souffrance. Oui, tu voulais dire quelque chose, Eric.
Autre exemple de souffrance, moi, je me souviens dans une chaîne qui a disparu aujourd'hui, ED, il y en a certains qui repartaient avec le seul rouleau de papier toilette dans les toilettes. Alors, quand parfois ça arrive, hein, même les gens les super organisés s'y prennent au dernier moment et ferment la porte et on se retrouve sans papier, la situation peut être pénible. Et des salariés qui repartaient avec le rouleau, un rouleau qui était neuf, et c'est assez terrible, c'est ce manque, et là c'est la souffrance, enfin, je veux dire, on est dans des situations embarrassantes, et c'est arrivé plusieurs fois, jusqu'à ce que chacun ait dans son casier un rouleau de papier toilette. C'est une folie douce, hein. Et oui, ça fait partie du manque de conscience, finalement, de on est ensemble, il y a un moment donné, on partage aussi des lieux, on partage du matériel,
des locaux, quoi.
Des locaux, ouais, et on n'est pas à shipper ce qu'on croit être l'objet du patron, finalement, c'est simple, j'imagine très bien...
Et tu prends un petit peu ta revanche sur le patron.
Alors que...
Ça pourrait procéder du sabotage, dans la mesure du sabotage...
Si ce sont les toilettes patronales.
Là, je vais reparler d'Émile Pouget qui a écrit... petit ouvrage s'appelle Le Sabotage. Et là, on pourrait comprendre parce que effectivement, à mauvaise paye, mauvais travail. Ah, il n'y a pas que les mauvaises payes, il y a aussi les mauvaises conditions de travail. On peut saboter. Mais là, effectivement, comme tu le soulignes, on ne sabote pas. Alors, effectivement, on pique dans la caisse du patron, quelque part, parce qu'on prend le papier toilette, mais ça emmerde, sans mauvais jeu de mots, les collègues. Voilà. Alors, un bon sabotage... C'est nuire aux intérêts du patron sans nuire à ses collègues. Voilà. Alors, pour revenir sur le sabotage, le patron fait du sabotage. Hein. Je pense que tout le monde... est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le sabotage?
Il y a besoin. Allons-y. Vas-y.
Justement, quand t'as un salarié conscient qu'on effectivement te rend pas, on te rémunère pas correctement en fonction d'un travail de qualité que tu peux faire, et ben tu peux être amené à dégrader l'outil de travail, ce que tu produis, justement pour taper dans le porte-monnaie du patron. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour les auditeurs et les auditrices, mais voilà, c'est comme ça que je le résumerai un petit peu. Donc, c'est une manière de faire réagir l'employeur. Tu ne veux pas m'entendre, et ben moi, tu ne veux pas, tu veux pas m'apporter ta reconnaissance de bon travailleur, et ben je vais saboter ton travail. Et là, tu vas peut-être finir par comprendre que j'existe et que je faisais, j'étais capable de faire du bon travail, j'en fais plus maintenant. Voilà.
Donc
ça, c'est du sabotage, mais mal dirigé. Alors, il faut savoir que ça, c'est le salarié qui a une réaction contre le sabotage patronal, qui lui, effectivement, peut être le chômage.
Oui.
Hein, c'est le sabotage contre le patron, un patron particulier, ou contre tous les patrons, on va appeler les capitalistes, qui, effectivement, organisent le chômage. Pour justement pouvoir jouer sur les salaires et puis voir les horaires de travail.
Les conditions de travail.
Et les conditions de travail. Donc ça, c'est du sabotage patronal.
D'où l'intérêt de se syndiquer, parce que c'est le collectif qui va répondre, collectif conscient qui va répondre à ce genre, et pas l'individu seul qui va forcément à un moment donné être inefficace, voire ça va être dangereux pour lui, ou va aller à l'encontre des intérêts de ses camarades travailleurs. Quoi.
Camarade technicienne, est-ce que tu veux nous remettre de la musique ou pas?
Oui.
Hein, on va dire toutes les 20 minutes, c'est bien, ça repose.
Oui, oui. Je vais faire une Des annonces, c'est comme ça qu'on appelle quand on annonce
non,
avant.
Non, annonces, c'est après.
C'est après. Bah oui, c'est logique.
Hein là, tu l'annonces.
Soviet suprême. Propaganda dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Propaganda subliminale.
À New York fait vibrer l'Amérique. Mon œil de Moscou fait couler sa larme fatale. T'es prise dans la toile, je t'emballe. Propaganda professionnelle.
Tu balances des mails, tes secrets défilent sur ma page. Sur la toile, je te dévisage. Dans l'écueil, j'espionne tous tes secrets. Dans mon œil, tu te perds dans les reflets. Tu batailles, tu rues dans la cage. Sur la toile, je te dévisage. Sur la toile, je te dévisage.
Oui. T'avais annoncé Soviet suprême. Oui. Je t'entends pas. T'as bien allumé ton.
Non, j'ai pas le.
Ah, voilà. Si t'allumes pas le bouton, personne
donc,
va t'entendre.
Oui, j'ai même dit que c'était une des annonces alors que c'était une annonce.
Voilà. Donc voilà. C'était Sylvester Staline et John Lennon. Les membres du Soviet suprême. Voilà.
Bon. Non, mais...
Voilà. On va repartir sur quoi ?
Sur
le bien travail, sur les bonnes conditions de travail.
Alors, tu voulais dire quelque chose ? Oui, moi, j'ai plein de questions encore au sujet du bien travailler. Alors c'est pareil, bien travaillé, ce qu'on avait dit au départ, là, le concept, qui est un mot composé, bien travaillé, est-ce que bien travaillé en deux mots, c'est pas différent? Alors ça, on pourrait, on faudra qu'on fasse une prochaine émission là-dessus, parce que c'est, à mon sens, il y a une différence.
Un petit peu plus, mais voilà. Mes ouvrages.
Et puis faire la différence entre, moi je pense qu'il y a une différence à faire entre le travail bien fait et bien travaillé. C'est-à-dire que pour le patron, le travail est bien fait à partir du moment où ça lui rapporte du pognon. Mmh. Et où il a la paix sociale. Enfin, je résume. Et où on lui demande pas d'augmentation, tralala. Bon. Ça, c'est le travail bien fait. Et il a vendu sa production, tralala. C'est pas forcément bien travaillé. Donc, souvent, dans les, moi, j'ai, dans les articles de presse que j'ai pu lire, je ne citerai pas les journaux parce que c'est pas, pas, c'est inutile, mais, enfin, c'est des revues, ben, y a parfois, c'est pas clair entre le travail bien fait et le fait de bien travailler. Une espèce de passage de l'un à l'autre, voilà, c'est pas bien compris. Et moi, je fais une différence quand même entre, ouais,
quand les employeurs te proposent des nouvelles méthodes de travail avec des nouveaux outils hein, de gestion, des logiciels qui vont gérer, qui vont imposer effectivement une logique de travail. Et bah, ça s'accompagne aussi de changements. C'est ce qui se passe dans notre boîte. Chez Monoprix, où les salariés habituellement commençaient à 6 heures et maintenant vont commencer à 7 heures. Alors, il y a toujours des vagues hein, d'arrivées de salariés, mais là, tout le monde va commencer à 7 heures. Sauf que bah, quand tu viens de loin, que tu viens avec ta voiture, et que... Ça, c'est des problèmes qui se posent. Hein. Mmh. Bah, tu roules mieux le matin à 5 heures du matin qu'à 6 heures. les transports en commun, bon, ça ne va pas changer beaucoup. Tu commences à voir quand même un peu de monde qui commence à fluer, à remplir les wagons. Mais, mais ouais. Et donc, des salariés qui vont. Il faut ouvrir les magasins aussi. Mmh. Donc, les salariés qui vont venir, qui viennent en voiture, tôt, qui venaient habituellement en voiture à la zone place de parking, offerte par le patron, c'est gentil. Sauf qu'ils vont passer deux fois plus de temps dans les transports. Voilà, le calcul qu'ils font, c'est je vais mettre une heure de plus pour venir et une heure de plus pour repartir.
Voir cool, arriver à la même heure et passer une heure de leur temps à attendre que le, ou à peut-être travailler gratuitement.
Bah, là, je parlais pour la personne qui va ouvrir le magasin, qui doit impérativement être là à l'heure. Du coup. Après, si tu... Oui, bah, oui, il y en a, effectivement, ceux qui vont prendre des transports en commun. Oui, plus ils sont loin, effectivement, plus les horaires, c'est...
Et puis, c'est...
C'est pas toutes les 3 minutes qu'il y a un... Tu vois, on n'est pas sur la ligne 14. Ouais, effectivement, quand tu viens de créer, ouais, ça va être autre chose.
Puis, ils sont souvent... Bah, je le pratique tous les jours, donc c'est du multimodal. C'est-à-dire que tu prends le train, tu prends le RER, après, t'as un bus, puis t'as un métro, puis tu finis à pied. Voilà, entre chaque mode de transport, ça prend la correspondance tout de suite. Et puis, il est parti, mince, parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, une vache sur les voies. Enfin, et puis, ça a retardé le train. Et puis, toi, là, quoi. Et tu attends 10 minutes, 15 minutes, voire un train annulé. Enfin, je veux dire, tout ça aussi, ça participe de l'inconfort et de la souffrance au travail. Parce qu'il y a la souffrance au travail avant du travail. C'est-à-dire que le transport, le temps de trajet, c'est du travail. Mmh. Donc, déjà, on t'arrive, t'es naze, quoi. T'es rincé, tu fais ça 5-6 jours dans la semaine. Oui, ça, tu peux pas être en capacité de bien travailler. C'est pas possible. C'est pas concevable. Ça aussi.
Ça génère du stress.
Ouais, on est dans tu vois, de ce que je disais, c'est. Le recrutement, c'est important. Enfin, le recrutement, c'est d'où tu viens pour ce travail. Comment tu arrives ici? Tout le monde s'en fout, hein, le patron, il s'en fout. Hein, il y en a certains qui s'y intéressent quand même. Parce que tu vas être bien en arrivant, mais parce que tu risques d'être en retard. C'est pas pareil, c'est pas la même philosophie. Donc c'est vraiment une autre perception du temps de transport, du temps de trajet des salariés. Faut s'intéresser à celui qui travaille. Enfin, ça c'est la base. S'intéresser à celui qui travaille avec toi pour voir ce qui est possible de faire pour ensemble faire en sorte qu'il puisse bien travailler. C'est-à-dire aussi être bien pour travailler.
Ah oui. Et de toute façon, il n'y a pas une vision d'ensemble. Et parce que pour les changements d'horaire que j'ai évoqués dans la boîte, et ça vient pas à l'esprit des représentants du personnel qui sont censés discuter avec l'employeur. De toute façon, ils baissent le cul de l'employeur. J'aurai l'occasion de faire un billet d'humeur là-dessus. C'est ça pour ceux qui nous écoutent, pour savoir si j'ai du mal.
Eh bien oui.
Et oui, c'est pas fini. Mais il y a aussi... Il y a les salariés effectivement de l'entreprise qui vont dire vous allez vous décaler vos horaires, alors ça va occasionner des problèmes pour les récupérer les enfants. C'est la personne qui va mettre une heure de plus pour rentrer avec sa bagnole parce qu'elle va être prise dans les embouteillages, hein. C'est une heure de plus, une heure en retard que tu arrives chez toi, minimum. Mais il y a aussi tous ceux qui travaillent, qui sont les entreprises extérieurs, enfin qui
prestataires.
Les prestataires, voilà, merci, qui eux arrivaient à 6 heures effectivement et qui faisaient 3 heures de boulot. Là, les 3 heures de boulot, il va falloir qu'ils le fassent en 2 heures, parce qu'en fin de compte ils finissaient à 9 heures, tu vois, avant l'ouverture du magasin. Tout ce personnel des nettoyages industriels dégageait et ils allaient chercher du boulot ailleurs, parce qu'eux ils cumulent plusieurs temps partiels. En fait, là ça va poser un problème, hein. Soit il va falloir qu'ils restent jusqu'à 10 heures et je les vois pas passer avec leur machine à faire du cirage, tu vois, du parquet avant, pendant, en même temps qu'il y ait des clients. Ça va pas être possible. Donc, ils vont forcément perdre une heure. Et ça dérange personne.
C'est les effets.
Et il y aura peut-être d'autres aussi, mais en fait, l'intérêt dans l'employeur d'apporter des nouvelles méthodes de travail avec des nouveaux horaires, c'est aussi, ils se sont rendus compte aussi que le mode de consommation des consommateurs a changé. Consommateurs, d'abord les hommes, les femmes travaillent. Moi, j'ai quand même connu l'époque où il y avait quand même beaucoup de femmes qui travaillaient pas dans le quartier où je travaille, hein, où je bosse. Tu avais les mères de famille déjà dès le matin qui, à 9h, c'était devant la porte. Dès que ça ouvrait, ça venait faire les courses pour faire bouffer à midi. Ça n'existe quasiment plus. Quasiment plus. C'est vraiment très rare. Par contre, le soir, là, il y a du monde. Donc les employeurs s'en sont rendus compte. Ils pourquoi ouvrir à 6h du matin alors que de toute façon, la clientèle est là... entre 17 et 19 heures. Voilà, on va pouvoir bouger les horaires des salariés, comme ça, plutôt que de finir à midi, 1 heure, ils finiront à 14, 15 heures. Voilà. Et ça se rapprochera plus de l'heure d'affluence de la clientèle. Donc, ils ont ça aussi en tête. Hein. Et là, effectivement, là, on ne pense pas aux salariés. Aux salariés et à l'employé qui, lui... Alors, effectivement, les salariés se consolent en disant on va dormir une heure de plus. C'est vrai que.
C'est souvent faux en plus.
De toute façon, leur train, ils ne vont pas modifier les horaires des trains pour autant. Hein, donc, oui, peut-être tu.
Et puis, déposer. Quand les enfants, tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a la crèche, elle ouvre pas à 6h du matin.
Non.
Et puis à 18h, c'est fini, même avant, parfois. Après, ça veut dire qu'il faut une garde de substitution, ça veut dire des frais, ça veut dire aussi. Il y a des effets induits qui peuvent être très contraignants générer de la souffrance. Et sans parler des troubles psychiques qui en suivent, c'est-à-dire que. Un enfant qui est déposé chez sa nounou, je ne sais quoi, ou l'institution à 7h ou à 6h30 et qui est récupéré le soir à 20h, il fait ça 6 fois dans la semaine. À un moment donné, il se demande si c'était vraiment son père ou sa mère, quoi. Enfin, j'exagère, mais il y a plein d'effets. C'est un blast social, en fait, cette organisation du travail. Et ça ne peut pas être du bien travaillé. comme c'est actuellement, ce n'est pas du bien travailler.
On peut pas être dans de bonnes dispositions d'esprit pour aller au boulot quand on sait qu'il y a tout un tas de contraintes, tout un tas de problèmes qu'il va falloir résoudre, qu'on ne peut pas résoudre, justement, parce qu'il y a ces contraintes horaires.
Alors moi, j'avais une autre interrogation, c'est la différence entre le... Enfin, c'est un peu... C'est le travail collectif est-il supérieur à la somme du travail de chaque salarié pour le bien-être? C'est-à-dire que ça, souvent, c'est le... Il y a, à mon avis, un problème de lecture aussi. C'est que, est-ce que la somme du travail de tous les salariés, elle est différente, forcément, du travail de chacun des salariés ajoutés?
Bien sûr, c'est un petit peu ce que Proudhon... C'est peut-être là que tu voulais en venir, non? C'est un petit peu ce que Proudhon, effectivement, soulevait. C'est que, voilà, sans personne individuellement... On va reprendre, je crois qu'il avait pris l'exemple avec l'érection de je ne sais plus quel monument par exemple. Sans personne vont essayer, 100 fois individuellement, vont jamais réussir à le bouger. Par contre, 100 personnes à la même, au même moment vont s'employer à soulever et vont réussir. Donc effectivement, cette force collective, c'est un plus qui n'est pas resservi individuellement à chacun. C'est ce que tu voulais. C'était un piège, c'était pour me tester, voir si j'avais des bonnes connaissances.
Si tu te souvenais.
Je m'en suis bien sorti.
Ouais, très bien. et en fait, d'où l'importance de... Moi, à mon sens, d'où l'importance de remettre effectivement le collectif dans la construction du bien travaillé. C'est-à-dire que de réinjecter, en fait, de prendre ce temps pour dire... De toute façon, il n'y a pas d'urgence à produire toutes les merdes qu'on produit. Globalement, il y a un moment donné, effectivement, tu dis que c'est pas possible, je te l'accorde, c'est difficilement possible en fonction des activités, mais là où c'est possible, et là où c'est possible tout de suite, c'est réinjecter, et ça c'est un peu le rôle des syndicats, là, parce que c'est prévu dans le Code du travail, c'est le rôle des syndicats de réinjecter ces temps de réflexion et de construction.
Il faut aussi avoir de la bonne volonté de l'employeur. Parce que l'employeur, il fait un petit peu ce qu'il veut dans sa boîte. S'il n'a pas que des partenaires sociaux ou des syndicats qui l'accompagnent, mais ce sont des forces de proposition et qu'il écoute, oui, on va pouvoir faire quelque chose. J'en connais peu quand même. J'ai déjà, moi, effectivement, posé la question au PDG, qui est une femme, qui est une PDG.
PDGère.
Ça aux amis du 59 et autres, et du 33 aussi, surtout
42.
Je lui ai posé la question. Je dis, mais parce que les méthodes de travail changent couramment. Là, on est sur MOM, agence, on sait même pas ce que ça veut dire. Les représentants du personnel, ils ont même pas été, ils ont fait une réunion, ils ont même pas posé la question ce que voulait dire MOM. C'est quand même pas mal, c'est fort quand même. Tu vois? Bon, bref, bravo. On a une équipe formidable. Voilà, ça, je suis en congé toute la semaine, je reviens que la semaine prochaine. Je dis ça à la personne qui m'écoute là. donc on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais avant ça, tu as eu le projet Ariane. Qui a très bien marché aussi. Ah oui, mais c'est un petit peu ça. Ouais. C'est une fusée là. Qui se casserait la gueule, finirait par autre. Bon, il y a toujours plein de projets, des goals, des machins, des trucs.
C'est l'attraction terrestre.
Je ne sais même plus ce qu'il y avait eu il y a longtemps.
Newton.
Ils sont tout le temps en train de changer parce qu'à chaque fois, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas. Ou soit ils essaient de faire fonctionner ça 15 jours et puis. Puis après, ça part en sucette, là, ça revient un petit peu comme avant. Sauf que, quand même, entre-temps, ils ont modifié les horaires, ils ont multiplié ils ont alourdi les charges de travail sur les salariés, ils ont réduit le personnel, Ils ont quand même obtenu quelque chose. L'employeur a obtenu quelque chose. Lui, il estime qu'il a fait un bon travail. Il a réduit les frais de personnel, il a réorganisé. C'est pas pour le mieux, c'est pas pour le bien-travail, mais... il a fait quelque chose. Donc, je disais ça pourquoi ?
Tu demandais à la PDGR.
Oui, je dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une réunion pour savoir ce que pensent les salariés et ce qu'ils sachent au moins à quoi ils quel est le travail qu'on leur demande en fait. Tu vois? On leur demande pas juste de mettre des boîtes de conserve. Tu vois, il y a une relation avec le client, parce qu'il faut voir comment les salariés des fois répondent au client quand ils posent une question. Hey, c'est là-bas. Hein. Tu sais, je veux dire que les clients là où je bosse, ils sont super compréhensifs, ils sont gentils. Moi, tu m'engueulerais comme ça, je suis pas sûr que dans un supermarché où je suis client, je vais me laisser faire quoi. Bon bref. Je me suis jamais fait engueuler dans un supermarché, donc il y a peut-être que dans celui-là, mais il faut voir comment les salariés parlent aux clients quoi. Mmh. Mal. Mais ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils savent pas trop ce qu'on leur demande. Puis comme il n'y a pas de reconnaissance, donc ils savent même pas s'ils travaillent bien ou mal. Ils savent pas si on leur a... ce qu'ils font a un sens.
Sans repère.
Il y a peut-être...
Sans repère.
Ouais, ouais.
Le repère, c'est la fiche de paye, c'est la pointeuse et...
Ouais.
Puis ça s'arrête là.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est bien. Hein? Alors, je parlais de Newton, c'est la gravité, bien sûr. Et puis, des petites expressions. Moi, j'ai noté ça, mais ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai dû en oublier plein, mais il y a par rapport au bien travailler, c'est. Par exemple, on dit bâcler son travail, faire un sale boulot. C'est des expressions populaires. Qui vont à l'encontre du bien travailler finalement. Et on dit, est-ce qu'on a parfois quand même le dire, j'ai bien bossé aussi.
Mais moi, j'ai déjà évoqué ça hein, dans les oui. émissions précédentes, les collègues dans le secteur du commerce qui disent on a bien bossé quand ouais. ils ont fait un bon chiffre d'affaires. Voilà. Même si t'as rien foutu et que les clients se sont jetés sur la bouffe, t'as bien bossé, mais si t'as cravaché comme un chien. T'as dépoté des palettes, tu t'es cassé le dos et que t'as fait un faible chiffre, t'as pas bien bossé. Ça, c'est quand même un truc.
Donc, il y a une identification au patron.
Ouais.
Ça, c'est une maladie fâcheuse.
Et sur laquelle il faudra revenir. Parce qu'on arrive au terme de notre émission. Hein? Je sais pas s'il y a l'émission après le proton se rebiff. Ah, il y a peut-être Jean-Manuel qui approche.
Oui, j'entends du bruit, je crois que oui.
Ah bah voilà.
Quelqu'un donc, arrive.
Bah, il est 58, on va peut-être arrêter là. Et puis
faire une annonce.
On va faire des annonces. Bon voilà, on s'arrête là. On continuera peut-être...
Je pense que ça mérite une suite.
Une suite, voilà.
Camarade.
To be continued.
To be continued, absolutely.
On commence par qui? Par nous.
Bah,
nous, on se retrouve le 4 mars en compagnie de Norbert, de la Fédération anarchiste, qui a été syndicaliste dans les transports. Et on va faire la deuxième partie d'une émission qu'on avait déjà faite sur les transports. Et là, on va la continuer, j'espère que... Et on le retrouvera après, mais là, on va s'en tenir au 4 mars. On a des camarades aussi sur Radio Libertaria le mardi de 20h30 à 22h30 qui font des émissions et notamment camarade Bernard des services publics du syndicat de l'énergie qui le 4e mardi du mois, donc le 27 février, va nous faire une émission. Je ne sais plus sur quoi, je l'ai lu et je ne me souviens plus du thème. C'est pas bien grave.
Salut Bernard. Belle bise.
Bon, après, il y a les camarades de micro-ondes aussi. Ce sera le 31 mars. On a le temps. Quoique.
Ça vient vite.
D'autres annonces?
Oui, sur la diffusion du film.
Oui, le mercredi 21 février, effectivement, vous pourrez retrouver Jean-Michel Rodrigo, le co-réalisateur du film Villa El Salvador, Les bâtisseurs du désert. Donc, c'est le co-réalisateur d'un documentaire... réalisé en 2008 sur la ville Villa El Salvador, qui a été construite dans le désert à partir de rien par des personnes qui avaient besoin et qui ont monté. Oui, vas-y, fais parler Jean-Manuel.
À quelle date as-tu dit pour le Villa El Salvador?
Mercredi 21 février.
Bon, avec un peu de chance, je devrais pouvoir venir.
Voilà. Et voilà, c'est au 145 rue Amelot, dans le 11e, à partir de 20h. Voilà, ce serait tous et toutes les bienvenues. Oui, c'est Eric, je ne sais pas si tu vas y aller.
Ça
te permettrait de le voir.
Oui, ah bah oui.
Hein, puisqu'on va refaire après une émission d'ici avril. Ouais. Avril, oui. avec Jean-Michel Rodrigo qui va revenir.
Si Martine rentre pour garder Popoc.
À 20h.
Oui, 20h. Oh, oui, mais il faut que je parte avant quand même.
Oui, mais bon, allez. Chien, il peut pas rester tout seul.
Oh, Popoc, il peut plus. C'est pas un chien.
C'est tout comme annonce. C'est déjà pas mal.
Salut, Popoc.
Voilà. Bénédicte, tu peux lancer le générique et on va laisser la place à Jean-Manuel pour son émission Le Proton se rebiff.
À un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant.
Salut, ciao à tous.
Ah, ciao.
Avec le mouvement anarchiste, rassure les mouvements
libertaires. D'abord, faut plus de gouvernement. Puis, faut plus non, plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ciao.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
L'émission en ce moment, Le Proton se rebiffe, a été enregistrée à Avignon, dans l'excellente épicerie-librairie appelée Youpi, 24 avenue Saint-Ruf, par Alexandre de Radio Aioli. Et la conférence porte sur le thème « Décroissance et anarchie, sont-elles jumelles et sont-elles réalisables ?»
Donc bonsoir à nouveau à tout le monde. Et évidemment, c'est une conférence légèrement angoissante pour le conférencier, parce que ce sont des sujets minuscules. Hein, l'anarchisme, la décroissance. J'ai essayé de faire un plan relativement cohérent. On essaiera d'abord de définir l'anarchisme, ensuite on essaiera de définir la décroissance. C'est pas tellement moins simple. Puis on va surtout parler des liens que j'appelle insécable, donc absolument impossible à déchirer entre anarchisme et décroissance. Et sur la fin, on parlera des lieux, des expériences qui ont réalisé le plus près possible, le mieux possible, soit l'un, soit l'autre de ces projets. Et mieux encore, il y a au moins un lieu sur cette planète qui, quand même, a quasiment réalisé les deux. Alors, ça tombe bien, parce que c'est l'un des lieux sur lequel j'ai écrit un bouquin. Alors évidemment, comme on est dans une librairie, il y a toute une table ici. Je vais parler bientôt de ces livres qui me semblent extrêmement utiles. Il y en a certains que vous connaîtrez peut-être déjà. À mon avis, il y en a un paquet que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et je les recommande tous, plus que vivement. Alors, on commence donc sur... Qu'est-ce que l'anarchisme ? Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans les différents groupes anarchistes.